Salut tout le monde, ici Lynn et Esther. Salut Esther.
Bonjour, ça va?
Oui, bon vendredi.
Bon vendredi à tous.
On est très contents d'être là aujourd'hui. Finalement, on n'est que deux aussi cette semaine, mais de la semaine prochaine, on sera trois.
Voilà.
La team de feu enfin réunie depuis les vacances. Esther, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui?
Bien, je vais vous parler de quelques expositions d'art visuel et d'art médiatique qui ont débuté ou qui aura cours. Et puis, un retour sur le concert bénéfice Georges qui a eu lieu cette semaine. Et c'était super. Je vous en avais glissé mot. Anna Weber était en ville. Et puis, c'était un super concert bénéfice pour l'organisme Brique par Brique.
Cool.
Donc, tout à l'heure, je vous parlerai, ouais, c'est ça, de la nouvelle expo qui a débuté aujourd'hui, mais qui aura le vernissage le 27 à la Maison de la culture Claude Léveillé. Donc, je vais vous en parler tout à l'heure.
OK, trop cool. Merci de couvrir les galeries d'art et le style de musique que tu aimes couvrir. C'est le fun. De mon côté, je suis allée voir deux pièces de théâtre cette semaine. Une qui s'appelle Le Brasier, mais c'était la version anglophone cette semaine, donc ça s'appelait Wildfire, qui a été écrite par David Paquette et qui a été traduite par Liana Brody. Et j'ai interviewé les deux, donc vous allez entendre les deux entrevues. Et ensuite, je suis allée voir Maurice, qui est de Anne-Marie Olivier, qui est vraiment... super intéressant, honnêtement. C'était une pièce de théâtre que j'ai vraiment aimée. Et j'ai aussi interviewé Anne-Marie, donc ça va faire beaucoup de petites entrevues, mais qui étaient vraiment super intéressantes. Donc, je vais commencer par vous parler du Brasier. Donc, ça a été écrit par David Paquette. David Paquette a été beaucoup récompensé pour son écriture dramaturgique. Il a remporté en novembre 2022 son deuxième prix du gouverneur général du Canada pour la catégorie littéraire pour sa pièce « Le poids des fourmis ». Il a été primé par le prix Michel Tremblay, le prix Sonny Laboutancy, le prix auteur dramatique du CTDA. Donc, il est reconnu, on peut le dire. Puis, il est joué pas mal à plusieurs endroits dans le monde. Ses pièces sont traduites. Donc, c'est super le fun. C'était aussi la première fois qu'une production de ses œuvres, une traduction plutôt, de ses œuvres sera présentée, a été présentée en anglais au Québec. Ça a été déjà présenté en anglais en Ontario, aux États-Unis et dans le reste du Canada, mais au Québec, c'était la première fois, donc c'était lundi, et c'était là où je suis allée aussi, donc c'est super précieux comme moment. Et Liana Brody, c'est une comédienne, dramaturge et traductrice primée également qui se passionne pour la promotion des voix des femmes et d'une nouvelle génération de dramaturges francophones en transmettant leur vision théâtrale en langue anglaise. Elle est aussi autrice de pièces et donc elle traduit des pièces francophones en anglais puisqu'elle est parfaitement bilingue. Le Brasier, c'était une pièce... spécial, on va dire, mais du très bon sens. C'était très, très bon sens. Juste le résumé m'a fait beaucoup rire parce que c'est complètement vrai, c'était très représentatif, donc je vais vous le lire. Avec Le Brasier, David Paquette nous arrache le rire comme on nous arracherait une dent. Dans cette pièce magnifiquement construite, l'auteur s'attaque à notre conscience collective défaillante et l'immobilisme qui en résulte, mélangeant humanité et franchise avec le superbe sens de la formule qu'on lui connaît. À la fois féroce comédie noire et drame héréditaire, Le Brasier est un cycle, une ronde de trois où on suit différents personnages qui sont tous sujets d'un poids de famille, une histoire familiale qui les hante. Donc, c'était vraiment ça, c'était en trois parties. Et chaque partie nous rentre dedans vraiment. Puis ce qui est super intéressant, c'est qu'il y a trois acteurs pour six personnages. Évidemment, ils ne sont jamais les six en même temps dans la même partie. Mais les trois acteurs sont vraiment géniaux, honnêtement. J'ai vraiment admiré leur capacité d'adaptation d'un personnage à un autre. Et Wildfire est à la Chapelle Scène Contemporaine jusqu'au 28 janvier, c'est ça. Et le 28 janvier, à 15h, il y a aussi une présentation en anglais avec une interprétation en langue des signes américaine en direct. Donc, si ça vous intéresse, je vous encourage vraiment à aller voir ça. Ça m'est resté dans la tête pas mal. Puis même en rentrant chez nous, j'ai J'en ai parlé à mon collègue, puis j'en revenais pas à quel point ça m'avait rentré dedans. Parce que c'était, en fait, c'est ça que je disais à David, c'est que je vais souvent à la chapelle, puis j'ai rarement entendu autant de réactions spontanées du public, des réactions de puis des vraiment des réactions spontanées des gens qui réagissaient à ce qu'ils voyaient en live. C'était super agréable parce qu'on était tous dans le même bateau, on réagit en même temps à ce qu'on voit. Fait que c'est super intéressant, donc je vous présente cette petite entrevue que j'ai faite avec David.
C'est drôle parce que je me disais que je vais quand même en voir beaucoup, surtout à la chapelle, puis je me disais que j'avais l'impression que c'était quand même rare qu'il y ait autant de réactions du public, comme, tu sais, des réactions spontanées, des « oh, oh my god », tu sais, comme des grosses réactions, comme vocales, pendant la pièce. Vu que tu étais là, qu'est-ce que tu en as pensé de la réaction du public?
Ben j'étais ravi, moi, de cette réaction, évidemment, puis en plus, il ne faut pas penser qu'un public silencieux, c'est un public qui ne réagit pas. Sauf que dans ce cas-là, un public, c'est sûr qu'il réagit sonorement, que ce soit en riant ou que ce soit comme en disant « ou en disant genre « il y a eu de ces trois choses-là là, lundi. Ouais. » Et donc, ça, c'est sûr que ça aide à suivre un peu le parcours du public. Donc, on se dit « ah, ben ok, je pense que je suis en train de... » Tu sais, « we're hitting the mark » à chaque fois. Fait que ça, c'est assez le fun de voir ça. Puis moi, je suis ravi parce que souvent, peut-être spécialement pour le brasier même, j'ai des fois l'impression je dis que j'écris du funambulisme émotif. C'est-à-dire que je sais que mes pièces sont une espèce de condensé de beaucoup d'émotions en même temps. Et donc, d'entendre les gens réagir ainsi lundi me confirmait que cette visée-là était probablement atteinte avec ce spectacle, avec ces nouveaux acteurs et tout. Fait que j'étais vraiment ravi.
Ouais, c'était vraiment super cool. Puis les acteurs aussi, les comédiens étaient incroyables, là, vraiment.
Justement,
ouais, je voulais te demander pourquoi tu avais fait le choix de prendre les trois mêmes comédiens pour les six personnages différents au lieu de prendre un comédien par personnage.
Ouais. Ça, en fait, c'est plutôt un choix de mise en scène. Cela dit, moi, en écrivant la pièce, je savais bien que c'était possible et que je trouvais que cette décision-là formelle était cohérente avec le propos de la pièce. C'est-à-dire que c'est un système de gens qui sont tous réunis les uns aux autres sans trop le savoir. Fait que je le résume comme ça sommairement pour ne pas spoiler, là.
Oui.
Et donc, que des acteurs reviennent dans cette espèce de système d'individus, défendre plus d'un personnage, ça me semblait complètement cohérent. Même quand j'écrivais au début, je me demandais s'il ne fallait pas que je change les trois triplés, les trois sœurs, pour des triplés comme deux sœurs et un homme, pour que l'homme puisse jouer deux rôles d'homme. Puis après ça, j'étais comme, mais dans le fond, on s'en fout.
Ouais.
C'est du théâtre. On fait semblant. On s'en fout qu'un homme joue une triplée ou que... Puis tu sais, j'aime en plus cette espèce de mixité des genres et tout. Fait que, finalement, je pense que je n'ai jamais vu, moi, le brasier à date, je crois, jouer avec six acteurs.
OK.
On a été fait au Mexique, mais je n'étais pas là.
OK. Mais en plus, ça marchait super bien, même dans la première partie... T'sais, je me suis comme demandé brièvement au début, j'ai comme remarqué que c'était un homme qui jouait une femme, puis après ça, de toute façon, il est tellement bon que
tu
l'oublies, là. Fait que, ouais, je trouvais que ça marchait vraiment bien.
Oui, puis pour les acteurs, ça leur permet de défendre deux partitions, chacun, chacune. Fait que pour eux, et pour nous qui les regardons, on les trouve encore meilleurs du fait qu'on les a vus faire un personnage complètement différent avant. Puis là, ils reviennent, puis il y a comme un nouveau travail vocal, un nouveau travail physique. Fait que c'est vraiment le fun. On dirait que tout le monde gagne avec cette décision.
Ouais, 100%. Puis, est-ce que tu peux un peu me raconter comment la pièce est née? J'ai vu que ça avait été inspiré un peu d'un de tes propres questionnements sur le destin, tout ça. Est-ce que tu peux me décrire un
à
peu?
À savoir qu'est-ce qui m'attendait, moi, avec mes propres gènes. Il y a plein de sources d'influences différentes, le brasier. D'abord, oui, c'est une période dans ma vie où moi, je questionnais un peu ma lignée génétique. C'est-à-dire que, tu sais, j'avais demandé à mes parents un peu, mais tu sais, qu'est-ce qui me précède, mettons, tu sais, vos frères et sœurs, vos oncles et tantes, vos parents, tu sais, de quoi les gens, de quoi ils ont souffert, est-ce qu'ils ont été malades? Et puis là, je réalisais que quand même, de part et d'autre, puis pas mes parents, moi, sont très, sont super et sont très sains et simples, mais tu sais, je réalisais que dans la lignée, il y avait quand même des trucs un peu T'sais, ce soit de santé mentale ou de dépression ou de problèmes de consommation, des trucs comme ça, plus ou moins éloignés. Puis je me disais, mais mon Dieu, est-ce que j'ai tout ça dans mon sang? Et si c'est le cas, est-ce que c'est une condamnation? Et quand est-ce que ça devient une condamnation? Donc, je questionnais beaucoup la notion de la prison, de l'hérédité, des limites génétiques. Et ça me ramenait à, tu sais, est-ce qu'on est maudit? Et ça me ramenait un peu à la notion de tragédie grecque, tu sais, de le fatum. Tu as des personnages dans les tragédies grecques qui sont incapables d'échapper à leur propre destin. Et ça me semble intéressant. Parallèlement à ça aussi, au niveau de la genèse de la pièce, moi, j'avais des objectifs comme formels. C'est-à-dire qu'avant Le Brasier, j'avais écrit une pièce qui s'appelait 2h14, où les personnages détiennent un secret que le public ignore. Puis avec Le Brasier, je voulais faire le contraire un peu. Je voulais faire une pièce où le public détient un secret que les personnages ignorent. Puis aussi, pour terminer cette question, j'avais commencé à travailler sur les triplés pour un projet parallèle. J'avais déjà l'histoire d'amour un peu du milieu. La première partie de ça existait comme une petite pièce indépendante de 12 minutes. Après ça, j'avais soumis un projet pour le jamais lu. Ça avait été retenu. Puis là, j'avais vraiment pas beaucoup de temps pour créer une pièce. Fait que je me suis dit, ah, je vais prendre ces morceaux. Puis je vais les mettre ensemble. C'est comme ça que l'idée du triptyque est arrivée. J'avais comme déjà un peu une idée pour la première partie, pour la deuxième. Puis là, je me suis dit, avec la troisième, je vais essayer de rattacher tout ça.
OK.
C'est un peu comme ça.
Parfait. J'ai vu qu'il y avait un élément aussi de l'importance du conte. C'est pas vraiment des monologues, mais c'est comme des parties de monologues qui se répondent là, par les comédiens. Mais j'ai remarqué aussi surtout dans la troisième partie, mais dans la deuxième aussi. Puis je sentais là, que tout le monde était comme tellement dedans, puis tellement comme. Genre, dans le suspense de qu'est-ce que la personne racontait, mais surtout dans la troisième, en fait, parce que la comédienne est toute seule sur scène, puis elle nous emmène vraiment avec elle dans l'histoire, là.
Oh, et puis rendu à la troisième partie, on a bien compris la mécanique de la pièce. Tu sais, la première partie est toujours très surprenante, là. Elle est comme volontairement déstabilisante. Les gens sont comme What's going on? Tu sais, ça prend un petit temps d'apprivoiser, d'autant que ça commence très, très un peu in your face. Après, progressivement, on s'habitue puis ça décélère. Mais cette mécanique-là du conte, en fait, c'est que je me disais, c'est encore par rapport à des pièces passées. Mettons, ma pièce Porc-épic avant ça était beaucoup derrière quatrième mur. Fait que c'était beaucoup des personnages qui dialoguent ensemble. Et à ce moment-là, dans mon cycle de création, j'étais très dans l'idée encore de savoir qu'on fait semblant. Là, je me disais, ben, on fera pas semblant que le public est pas là non plus. Fait qu'on va leur parler, puis tout ça, puis j'avais envie de me dire, mais est-ce que c'est possible de tout mettre dans les mots? Et ça permettrait au metteur en scène qui s'empare de la pièce de ne pas être obligé de mettre en scène des didascalies. Mettons, elle se rend au frigo et prend un bout de céleri ou un sapin. C'est terrible comme exemple, là. Mais donc, de donner de la liberté absolue au metteur en scène de dire, hey, tout est dans les mots, fait que toi, parallèlement à ça, tu peux vraiment proposer l'univers de ton choix.
OK. Puis ça doit faire que quand c'est présenté dans différents pays par différents metteuses en scène, ça doit faire des pièces très différentes, dans le fond.
Absolument. Moi, je l'ai vu cet été à Toronto, au Factory Theatre, puis ça avait absolument rien à voir. D'abord, il y avait plateau vide. C'est une proposition même rythmiquement complètement différente de celle qu'il y a à la chapelle présentement. Je l'avais vu aussi en Suisse une fois. C'était complètement déjanté, mais effectivement, cette liberté-là, et ça devient très intéressant, en tout cas pour pour moi qui ai eu la chance de voir ces productions-là, de dire, bon, ben, OK, qu'est-ce qui m'attend? Quel choix ils ont fait? Puis ils l'ont fait aussi aux États-Unis, mais ça, je l'avais manqué, mais la traductrice, Liana Brody, qui a fait un super travail de traduction, est allée voir le spectacle, puis là, j'avais vu des photos, puis effectivement, chaque fois, je me dis comme, wow, que c'est super, tu sais.
Ah oui, ça doit être trippant en plus là pour toi de voir comment les gens ont comment les gens imaginent qu'est-ce que t'as écrit puis comment ils le mettent en scène. Ça doit être vraiment
Et ce qui est intéressant aussi, effectivement, comme tu dis, c'est de voir quelle décision artistique l'équipe a prise. Et en plus, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de voir comment le public réagit. Puis ce qui est drôle, c'est que il y a plein de changements, de fluctuations, de différences dans les choix artistiques de l'équipe. Or, le trajet du public est presque toujours le même.
Ah ouais.
Ça rit, ça réagit, c'est ému pas mal aux mêmes endroits. Ça, bon, évidemment, c'est que c'est relié au récit,
Ouais.
mais c'est toujours, tu sais, c'est une école en soi, ça, d'avoir la chance. Je suis très chanceux, moi, sur ce point-là, d'avoir la chance d'apprendre de multiples productions d'une même pièce. Ça, c'est dès Porc-Épic. C'est arrivé pour ma deuxième pièce aussi, puis ça m'a autant appris que le temps que j'ai passé à l'École nationale ou, tu sais, sur vraiment les défis, les enjeux, les challenges de mettre en scène une pièce et l'impact que ça a sur un public.
Ouais, c'est clair. Mais je me demande un peu si, dépendamment du pays puis de la culture, tu sais, les gens sont pas aussi expressifs dépendamment de quelle culture ils sont, si ça change la réaction du public par rapport au pays dans lequel on est, je pense.
Sommairement, oui. Après ça, c'est très difficile de faire la part des choses parce que
Oui.
il y a les influences culturelles du pays, il y a les influences des choix de mise en scène, il y a le texte lui-même, il y a ensuite de ça la dimension, tu sais, pour une même production comme présentement Wildfire Factory, c'est le même spectacle. Il ne sera jamais le même à tous les soirs. C'est l'espèce d'ingrédient de live, là, de l'art de la présence. Fait que si un soir, je sais pas moi, un ou une des comédiennes est particulièrement en forme ou un peu fatigué ou le public, l'heure du spectacle influence beaucoup aussi un spectacle à 16 heures. C'est pas pareil qu'un spectacle à 20 heures. L'âge du public. Fait que tous ces facteurs-là font en sorte que c'est difficile des fois de départir des influences. Mais je te dirais que oui, culturellement, quand même, j'ai vu certaines lignées qui se tracent dans la façon de recevoir le spectacle, mais aussi, peut-être surtout dans la façon de le monter. Tu sais, il y a le type de jeu. Bien sûr, c'est toujours comme des, entre guillemets, préjugés. Il faut faire attention à ça, mais tu sais, la direction d'acteur au Mexique, c'est pas du tout la direction d'acteur en Allemagne.
Mais non, c'est sûr.
Même au Québec versus le Canada anglais. Tu
Ah,
sais, il y a plein de différences.
ben c'est super intéressant. Puis c'est ça, j'ai parlé à Liana aussi hier.
Ah, super.
Pourrais-tu me parler un peu de comment ça s'est passé, le processus pour traduire la pièce? C'était comme, vous êtes sûrement beaucoup parlé pendant le
Vraiment.
processus, là.
Oui, vraiment beaucoup. En fait, on a eu la chance avec Liana de faire un workshop au Playwrights Workshop à Montréal, qui était sous l'invitation de Emma Thibaldeau et de Lynn Paquette de Talisman Théâtre, qui est la compagnie qui produit le spectacle. Et donc, on a pu travailler. Liana, c'est loin d'être sa première traduction, hein, fait que elle sait ce qu'elle fait, puis tout ça. Fait qu'elle est arrivée déjà avec une première version très solide. Elle m'avait posé beaucoup de questions avant sur l'intention, la création de la pièce, etc. Fait que c'est vraiment comme une traductrice qui essaie de contextualiser le rapport du créateur à sa pièce avant même de traduire. Ce qui est, j'ai travaillé avec d'autres traducteurs qui font pas du tout ça. Fait que ça, c'était intéressant. Et ensuite, quand on est arrivé au workshop, elle avait déjà cette première version très solide. Et là, on a pu faire des tests avec trois acteurs anglophones, avec Emma, pour voir si eux, est-ce qu'il y a des choix qui questionnaient, qui sont comme, je pense que l'expression vient de Maureen, la bonté, mais des espèces de fantômes francophones qui seraient restés dans la pièce. Puis on a pu travailler ça pendant 9 heures, puis après ça, on a fait une lecture. grâce à laquelle on s'est ramassé à Toronto des années plus tard. Et donc, je pense que ça explique pourquoi la traduction, elle est aussi, aussi solide. Puis, tu sais, Liana est perfectionniste, moi aussi. Le Brasier, c'est un texte que j'aime beaucoup. Puis, il y a toute une part, peut-être spécialement dans la troisième partie, très poétique aussi. Tu sais, il y a une envolée poétique dans le monologue. Ça, c'est encore plus dur à traduire. Fait que là, le défi devenait de voir, bon, ben, quelles expressions on garde et on essaie de traduire. Et quelles expressions on remplace et on renouvelle avec des trucs en anglais. Et ça demandait une collaboration assez étroite. Parce que, tu sais, il y a ce vieux, cette maxime ou ce dicton qui dit traduire, c'est trahir. Fait qu'il faut savoir choisir, bon, mais qu'est-ce qu'on trahit, qu'est-ce qu'on conserve. Mais c'est un super travail. Liana, on est à une troisième pièce qu'elle a traduite de moi où on a collaboré. C'est super.
J'imagine que pour elle aussi de travailler avec le même auteur plusieurs fois, ça devient plus naturel de... J'imagine qu'elle limite pas ton style, mais de comprendre ta façon de travailler, puis les tournures de phrases, etc. Ça doit être plus évident là, au bout d'un moment.
Oui, évidemment, parce que ça, on a l'habitude, et ayant vu aussi mon théâtre, ayant vu ses traductions monter, tu sais, t'allais voir le Brasier aux États-Unis, on a fait The Shoe dans l'État de New York, ça aide à comprendre un peu, dire, ah, OK, ce passage-là, sa fonction, elle est comique. Or, cette réplique-là, ici, ça, c'est la flèche qu'on envoie en plein cœur des gens. Quand je parlais tantôt de funambulisme émotif, et ça, je pense que le fait de collaborer sur plusieurs pièces, ça aide vraiment comme à déceler la mathématique émotive derrière le texte. Puis ça peut être intéressant. Cela dit, Liana, là où j'admire beaucoup son travail, c'est que moi, je parle quand même très bien anglais. Je pense que c'est beaucoup plus exigeant de traduire un auteur qui maîtrise un peu la langue vers laquelle c'est traduit, parce que tu sais, avec moi, maintenant, quand je traduis en espagnol ou en allemand, tu sais, je suis d'un lâcher-prise obligatoire, parce que je parle pas la langue. Or, en anglais, tu sais, je suis plus picky, là.
Ben oui.
On a trouvé notre chemin.
Donc, c'était David Paquette qui nous parlait de sa pièce Le Brasier, qui a été traduite par Liana Brody et qui est présentement en représentation à la Chapelle Scène Contemporaine jusqu'au 28 janvier. Et cette pièce-là aussi fait partie du festival Wildside en partenariat avec le Centaur Theatre et la Chapelle Scène Contemporaine. Précipitez-vous sur les billets vraiment, parce qu'en plus, il n'en reste pas beaucoup. C'est quasiment complet pour toutes les dates. Mais en fait, ils ont mis quatre supplémentaires tellement il y avait de billets qui se vendaient. Donc, si ça vous convainc pas, je sais pas qu'est-ce qu'il vous faut. fait que c'est ça, après ça, ou avant plutôt. J'avais interviewé donc la traductrice de cette pièce qui s'appelle Liana Brody et je vous diffuse cette entrevue à l'instant.
J'essaie de faire le moins possible de mon style à moi. En tant qu'autrice, c'est un gros défi parce qu'on n'a que sa propre perspective, on n'a que ses propres deux yeux pour regarder le monde et son propre stylo. Si on peut dire, son propre clavier. Mais ouais, j'essaie de répondre au style, aux préoccupations, au rythme, au cœur, au débit, à la voix de l'auteur, tout en le transmettant, en trouvant des équivalents. Pour moi, l'art de traduire, c'est l'art de trouver le meilleur équivalent dans ma langue à moi. Alors, c'est pas replacer le style ou le stylo de l'auteur avec le mien. C'est vraiment essayer de trouver, écoute, si David Paquette écrivait en anglais, s'il y avait des personnages qui parlaient anglais, comment ils seraient? Quels seraient les jeux de mots équivalents aux brillances de David Paquette? T'sais? Alors, on essayait d'être à l'auteur, à la hauteur de l'auteur.
Parfait. Puis j'ai lu aussi que tu passionnais beaucoup pour la promotion des voix des femmes dans le théâtre. Puis je me demandais, est-ce que tu trouves qu'il y a un déséquilibre ou un décalage entre les hommes et les femmes dans le théâtre québécois ou canadien en général?
Ah ouais, c'est prouvé.
Ouais.
Au Québec, il y avait le Femmes pour l'équité en théâtre. C'est un organisme d'artistes de théâtre qui ont fait comme les statistiques sur les pièces produites sur scène à Montréal, mettons, et au Québec, je pense, au grand complet. Puis ils ont trouvé un déséquilibre hallucinant entre les pièces de femmes et les pièces d'hommes, ou les non-binaires, etc. C'était très, très, très majoritairement les pièces d'hommes. Je vous le recommande, ce reportage. On pourrait en parler après, mais non, non, c'est absolument prouvé. Et voilà que je traduis un homme, mais premièrement, je l'adore, il est magnifique. Deuxièmement, il s'occupe beaucoup des voix de femmes. Ouf. Et des voix de femmes extraordinaires. Ce serait décourageant pour les actrices de ma communauté si je passais cette opportunité-là. Pas décourageant, juste tant dommage.
Ouais, je comprends.
Mais je travaille aussi avec Louise Bombardier, avec Rebecca Deraspe, avec Catherine Léger, Fanny Britt, Hélène Ducharme. Alors, des femmes, j'en trouve.
Puis quand vous dites qu'il y avait un déséquilibre dans l'étude ou le reportage, c'est dans les performances des pièces de théâtre, la performance était beaucoup meilleure pour les hommes versus pour les femmes. C'est ça?
Pour les femmes, là, j'ai pas les statistiques.
OK.
Mais pour la plupart, quand les femmes écrivent, ils écrivent des bons rôles pour les femmes. C'est pas à dire que Michel Tremblay, mettons, n'écrit pas de bons rôles pour les femmes. Mais pour la plupart, si on veut trouver de la complexité de juste des voix qui sont au centre du projet, ce serait bon de retrouver des perspectives féminines. Et je pense que, en tout cas, on a un tout autre rapport avec la féminité quand on vit la vie d'une femme.
Mais oui, c'est sûr.
Ouais, puis il y a une protestation, une forme de protestation célèbre en Amérique, aux États, avec les Gorilla Girls, les femmes gorillas,
Ouais.
qui ont remarqué que pour être exposées au Met, au grand musée d'art, il fallait mieux être une femme nue sur le toile qu'une femme peintre qui fait de l'art, parce qu'il y a
Oui.
beaucoup plus de chances d'être exposé sur ces murs-là. La même chose avec la scène. Il y a un déséquilibre quand la femme est sujet, quand la femme est jamais sujet, mais plutôt l'objet de la création.
Ouais, je comprends. Mais c'est super intéressant parce que je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup dans le milieu du théâtre, on en parle plus souvent dans le milieu du cinéma ou des autres formes d'art, mais c'est vrai que le théâtre est pas en reste comme les autres formes d'art. Faut s'assurer qu'il n'y ait pas de déséquilibre entre les sexes.
Absolument. Et on a l'impression, parce qu'on a des femmes fortes quand même dans la dramaturgie québécoise, on a l'impression que alors c'est égal et c'est juste pas le cas. Si on regarde les saisons, les femmes pour l'équité en théâtre ont regardé 5 saisons de tous les théâtres et ont trouvé cet équilibre-là, déséquilibre-là. Mais comme je dis, avec Wildfire, on est ailleurs parce que je pense que David Paquette, il crée des personnages magnifiques, féminins, masculins. On pourrait dire non-binaires, des fois, c'est juste, ça pourrait être n'importe qui. Bon, c'est un auteur très sensible. à la dignité et à la diversité humaine. Fait que...
CKUT is looking for a full-time sales and administrative coordinator. The sales and administrative coordinator is responsible for the sale of on-air advertisements and co-presentation partnerships, as well as the negotiating of the radio station's administrative contractual agreements. The ideal candidate will have a passion for community radio, the ability to work with volunteers, clients, and community members, is well-organized, and has strong negotiating skills. We are looking for someone with knowledge of Montreal's arts, culture, and activity scenes who sees media as a tool for building community and can work in a non-hierarchical organization. Financial literacy, bilingualism, and experience with Google Suite products are also a requirement. For full details about the position, wage, and benefits, please visit ckut.ca. The cutoff for applications is Monday, February 6th at 5 p.m. CKUT strives to be a progressive working environment and recognizes experience outside of the formal workplace as important qualifications. We value the unique contributions that individuals from traditionally underrepresented and oppressed communities bring to our organization and encourage these individuals to apply.
Bonsoir à tous et bienvenue sur Café, votre émission d'art et culture du vendredi, il est 6h32. Ici Esther Bourdage au microphone. On va débuter en musique. On vient de recevoir à CKUT un superbe CD de Christine Abdelnour, une saxophoniste établie à Paris qui fait beaucoup d'improvisation. Elle en disque pas beaucoup, mais quand elle en disque ou quand lorsqu'elle joue des concerts, c'est assez incroyable. Elle est en compagnie de Andy Moore à la guitare. Il est fort connu pour son implication avec le groupe DX basé à Amsterdam. Donc, ils ont indiqué un opus qui s'intitule Unprotected Sleep et nous allons jouer la pièce numéro 2, Unprotected, qui porte le nom éponyme Unprotected Sleep. Et ouais, écoutons ça sur Café. On vient de le recevoir sur SKUT, donc je suis... ça date de quelques mois, mais c'est quand même assez récent. Donc je suis très curieuse de l'écouter. Je ne l'ai pas encore écouté, mais imaginez un peu une atmosphère un peu punk, un peu Brutus. Thank you.
C'était donc la pièce Unprotected Sleep de Christine Abdelnour au saxophone alto et de Andy Moore à la guitare. Donc, merci Esther pour cette belle proposition de musique. Je vais maintenant vous parler de la deuxième et dernière pièce que je suis allée voir cette semaine qui s'appelle Maurice et qui a été écrite par Anne-Marie Olivier. C'est inspiré de... c'est complètement inspiré d'une histoire vraie et ça a été... Non seulement ça, c'était inspiré des entretiens qu'a fait Anne-Marie avec Maurice Dancause, qui est un homme qui a eu un AVC il y a 33 ans, si je me souviens bien. Et évidemment, sa vie a complètement été bouleversée et c'est par ce bouleversement et ce changement, c'est de ça en fait qu'Anne-Marie s'inspire pour la pièce. Maurice Dancause était un travailleur acharné, un brillant économiste et fonctionnaire. Et un matin, il se lève et il s'effondre. Il a un AVC. 9 jours de coma, 4 ans de réadaptation. Depuis, tout a changé. Son cerveau, ses goûts, sa sensibilité, sa personnalité même. Et en toile de fond, il y a l'aphasie, ce véritable combat qu'il mène au quotidien pour trouver les mots. Mais loin d'être abattu, Maurice préfère sa nouvelle vie qu'il choisit de vivre pleinement. L'aphasie, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est je vais essayer de bien l'expliquer parce que j'ai pas la définition sous les yeux, mais c'est un décalage entre ce que le cerveau veut dire et ce que la bouche dit. Et à ce que j'ai compris, il y a 2 types d'aphasie. Il y a le type où on pense des mots qui ont beaucoup de sens, mais quand on dit des choses, ça n'a aucun sens. Par exemple, on va dire « poubelle » pour dire « étagère ». Puis, il y a l'autre sorte d'aphasie dont souffre Maurice, qui est juste de avoir très peu de mots en tête, mais de pouvoir les dire quand il les a en tête. Donc, il va parler en mots sans grammaire, il fera pas des phrases complètes. Mais maintenant, après beaucoup, beaucoup de travail de réadaptation, d'orthophonie, il est capable de se faire comprendre et de parler. Et il comprend totalement ce qu'il entend autour de lui. Et Anne-Marie a été fascinée par cette histoire de reconstruction et de résilience. Donc, l'autrice et comédienne se glisse dans la peau de cet homme à l'esprit incandescent. Et c'est ça la pièce. C'est elle qui interprète Maurice, qui se met dans sa peau. Et ce qui est super spécial avec cette pièce, qui fait toute son originalité et son intérêt, encore plus que le sujet qui est déjà intéressant, c'est que Anne-Marie, pour faire la pièce, elle prend une personne du public, une généreuse personne qui veut bien l'accompagner pour sa pièce. Elle s'assoit avec elle ou lui ou elle et les deux personnes se parlent pendant toute la pièce, en fait. C'est une conversation de laquelle on est témoin. Et c'est super intéressant parce qu'il n'y a complètement aucun quatrième mur. Le public participe. Des fois, la personne qui est devant ne comprend pas exactement qu'est-ce que Anne-Marie ou Maurice, dans le fond, lui dit. Puis là, le public peut l'aider, rajouter des éléments. C'est vraiment super intéressant. J'ai complètement adoré. Et il faut se dépêcher si vous voulez une place. Ça joue au Centre du Théâtre d'aujourd'hui jusqu'au 8 février. Donc, allez-y en courant. Et maintenant, je vous fais écouter l'entrevue que j'ai réalisée avec Anne-Marie.
Est-ce que tu pourrais me parler un peu de ta relation avec Maurice, puis comment vous vous êtes rencontrés à la base, comment cette relation-là a commencé?
Ben, en fait, c'est l'oncle de mon ancien chum. Je l'ai rencontré dans un party de fête, où j'allais un petit peu à reculons. Puis là, je suis tombée sur lui, puis j'ai fait « ben voyons donc! » Ça se peut pas. Premièrement, quand il m'a demandé ce que je faisais dans la vie, j'ai dit que je faisais du théâtre. Puis la plupart des gens à qui on dit ça, ils nous disent « Ah, dans quelle émission tu joues? » Là, tu dis que « Ben, tu fais du théâtre, tu joues pas à la télé. » Puis un peu, tu sais, de marquer dans leur front. Mais lui, il disait « Hey, wow! Merveilleux! » Déjà, il avait beaucoup de respect pour le métier, ce qui est assez rare, je te dirais, parce qu'on le connaît pas. C'est pas grave. C'est ça. Puis après ça, c'était son anniversaire à lui, c'était un party de fête, puis il racontait sa vie. Puis j'ai fait, ben voyons donc, on peut mettre ça sur une scène, puis ça marche. Puis j'y repensais le lendemain, la semaine suivante. Puis quand il y a une idée qui nous reste collée, là, puis qu'on y repense tout le temps, d'habitude, c'est un signe que c'est peut-être un bon sujet. Fait que c'est comme ça que ça s'est passé. Après ça, on a fait des entrevues avec lui, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entrevues. On l'a enregistré, on l'a filmé. Puis à partir de ça, on a choisi certains extraits qui sont dans le spectacle, qui sont un peu la partition qui est fixe. Parce que, comme tu as vu le spectacle, tu sais qu'on joue avec une spectatrice ou un spectateur pris au hasard. Ouais. Donc ça, c'est la partition qui est plus ouverte, un peu comme une partition de jazz. Mmh. Tu as un truc, puis là, des fois, la partition s'ouvre, puis là, on improvise.
Parfait. Puis c'est ça, avec je me suis dit... J'ai comme analysé un peu le style avec les coups de téléphone, ça doit comme couper la pièce, puis après ça, ça rend le truc plus timé, je me suis dit, peut-être.
Ben, il y a quand même des cues, tu sais. Moi, je dis pas toujours la même chose parce que des fois, l'improvisation nous amène. Mais il y a déjà, tu sais, qu'il y a des choses que je dois absolument faire pour que ma partenaire à la régie, Charlotte, puisse partir les bons cues au bon moment. Fait que c'est elle aussi qui fait les faux téléphones. Puis.
Super cool. Puis vous avez parlé combien de temps avec Maurice? Combien d'heures que vous avez fait environ, là? Comme ça se mesure-tu en mois et en semaine?
C'est vraiment dur à dire. Okay. On a fait plusieurs entrevues, beaucoup d'appels téléphoniques aussi, puis des petites rencontres pour parler de plein de sujets. Comme ça, je peux improviser proche de lui, tu sais. J'essaie de quand même rester proche parce que quand on prend quelqu'un dans la vraie vie, on fait du théâtre documentaire, on essaie quand même de se coller le plus possible à la personne. J'utilise les extraits filmés pour avoir... les mêmes gestes, les mêmes intonations, la même prosodie. Ouais. Fait que dans les improvisations, j'essaie de me baser aussi sur ce stock-là d'entrevues, mais il y a beaucoup, beaucoup d'heures, je te dirais, j'ai pas calculé. C'est un métier où on calcule pas nos heures. Mmh. Mmh. Sinon, ça ferait pas de sens, puis on serait très frustrés. Fait que c'est plus un rapport d'engagement. On fait tout ce qu'il y a à faire, même un petit peu plus comme ça, on se sent légitime, prêt à rencontrer le public parce que ce moment-là, il est bien précieux.
Oui, 100%. Je suis bien d'accord avec ça. Oui, je me demandais pourquoi est-ce que tu avais décidé de baser une grande partie de la pièce sur l'improvisation? Qu'est-ce que ça amène de plus au sujet, tu trouves?
Ben, tu vois, hier, je jouais avec Lucie. Donc, toi, tu l'as vu avec Lucie. Lucie est au degré zéro, est à la même position que toi. Mm-hmm. Donc, vous partez de la même place. On dit souvent, le théâtre, c'est jamais pareil de soir en soir, mais ça, je trouve que ça dépend quand même des propositions. Mmh. C'est jamais pareil parce que c'est pas les mêmes personnes, donc c'est très précieux. Il faut que ça se passe là. Les gens ont arrêté leur vie folle pour venir. Donc, vous êtes au même degré, puis tu vois, hier, la salle était pleine. Ça fait comme une espèce de connexion électrique. On sent que c'était pas prévu, puis ça rajoute l'électricité dans l'air. Puis, ça, en fait, l'idée aussi, c'est de reproduire ma rencontre avec des blagues, avec un intérêt, une ouverture vers l'autre. Donc, pour moi, le théâtre est une rencontre. Le théâtre est un feu autour duquel on peut se réchauffer. Puis pour moi, ces ingrédients-là, cette démarche-là, nous permet de recréer cette chaleur, cette électricité-là, puis cette rencontre-là.
Oui, 100%. Ça rajoute complètement une couche de spontanéité, là, parce que Lucie était en plus vraiment très drôle. Elle faisait beaucoup réagir le public par ses réactions, par ses commentaires. C'était vraiment bien.
Oui, c'est chouette, c'est chouette. Ben, quand c'est quelqu'un qui fait pas de théâtre, donc qui peut s'abandonner, là, sans, qui connaît pas les codes de la représentation, puis quelqu'un qui a de la compassion, la plupart du temps, c'est magique.
Mmh.
Puis le spectacle passe de correct à vraiment cool. C'est vraiment... Fait qu'il y a cette petite chose-là. C'est pas toujours que ça arrive. Des fois, quand les gens sont très, très, très gênés, c'est plus difficile. Mais je pense que ça vaut le coup de se mettre en danger de cette façon-là.
Ben c'est le fun. C'est le fun. Puis est-ce que, là tu m'as dit que tu avais beaucoup enregistré les discussions, est-ce que la question s'est posée de faire une œuvre audio au lieu d'une pièce de théâtre?
C'est moi, mon médium, c'est le théâtre.
Mm-hmm.
On aurait pu faire un documentaire aussi cinéma, tu sais.
Mm-hmm.
Quand on projette des extraits d'entrevue, les gens disent « j'en aurais pris plus » parce que c'est un homme charmant puis fascinant. Mm-hmm. Mais c'est tombé là-dessus parce que c'est plus dans mes cordes. Moi, je crois vraiment au théâtre que l'art peut transformer nos vies, qu'on n'est pas tout à fait les mêmes avant, puis après, il s'est opéré quelque chose en nous. Puis comme c'est mon médium, c'est plus facile pour moi, je suis allée vers ça.
Ben oui, ça fait bien du sens. Puis est-ce que Maurice est allé voir une représentation?
Il vient, il va être là ce soir. il était là à la générale, il vient souvent. C'est sûr que pour lui, le moment le plus fort, c'est le moment de l'opéra. Hein, parce qu'avec son AVC, son cerveau a changé. Avant, il n'aimait pas du tout l'opéra, mais après son AVC, avec son aphasie, tout de suite, il y a eu comme une espèce de match avec l'opéra. T'sais, il avait essayé d'y aller à la Place des Arts, puis il dormait. Il fait dormir, crime. Mais ça lui permet d'exprimer les émotions qu'il ne peut pas exprimer avec son aphasie. Donc, c'est vraiment un match un peu transcendant pour lui. Donc, quand il y a cette intervention-là dans le spectacle, ça fait exactement la même chose qu'il nous a dit en entrevue. T'sais. Fait que il est très ému. Donc, ce moment-là, c'est le moment cathartique pour lui. Puis c'est sûr... C'est un peu spécial, mais je sens qu'il est quand même heureux de savoir que son histoire est racontée. T'sais, aujourd'hui, on va encore penser que l'aphasie vient mélanger l'aphasie avec une déficience mentale, ce qui n'est pas du tout le cas. T'sais. Après le spectacle, je pense qu'on n'a plus du tout ce doute-là. Mais ça nous permet aussi de freiner, de prendre le temps, puis d'arrêter notre regard, puis de le changer, puis d'apprendre là-dessus parce qu'on est méconnaissant. Fait que ça, je pense que ça lui plaît aussi.
Ben oui, c'est sûr. Ça va être vraiment spécial de regarder quelqu'un qui nous joue nous-mêmes. Très, très bizarre.
Ça, là, je suis même pas capable d'imaginer. C'est rare dans la vie, les situations où on n'est pas capable, mais moi, là, j'imagine quelqu'un qui serait très différent de moi physiquement, qui jouerait ma vie, là. Sur une scène, devant des inconnus.
Qui est du genre opposé aussi, là, parce qu'on l'oublie finalement que le genre est opposé et qui est différent. Là.
Ouais.
J'ai trouvé ça le fun que ça soit dans l'extrait audio de départ, puis qu'ils disent que justement ça fait du sens parce qu'il comprend mieux la féminité après son accident.
Oui, parce qu'il éprouve plus les émotions maintenant, c'est ça. Puis quand tu posais la question, est-ce que ça aurait pu être un balado ou tout. Ben, c'est sûr que le théâtre nous permet le fait que je sois une femme puis que je joue un homme. Mais c'est le fil qui nous lie, c'est vraiment le fil de la compassion puis de l'écoute, de l'accueil. Fait qu'on a essayé ça, puis tant mieux si on l'oublie.
Ouais. Parce que moi, j'ai vraiment, vraiment trippé.
C'est ça le but, hein? Tu sais, il y a un grand praticien du théâtre qui s'appelle Robert Gravel qui disait « il n'y a rien de plus plate que du théâtre plate ». Puis c'est vrai, tu sais, des fois, on se heurte à quelque chose qui n'est pas pour nous nécessairement. Puis les gens, comme ils ne connaissent pas beaucoup ça, ils vont dire « le théâtre, c'est plate », alors que cette pièce-là n'était pas pour eux. Oui. Mais pour moi, le fait que tu aies aimé ça, c'est génial. Tu sais, pour moi, le théâtre est une fête, le théâtre est un baume. Puis il nous sert, c'est vraiment le fun de le faire dans un but humaniste et de changer un petit peu certaines de nos perceptions, par exemple.
Oui, 100%. Puis même quand on croise quelqu'un qui a un handicap ou une différence, on a comme tendance à tomber dans la dramatisation des fois, puis dans la pitié, puis dans le oh my God, mais c'est terrible. Puis c'était tellement léger la pièce, puis il y a tellement d'humour que ça dédramatise tellement la chose. Puis je pense pas non plus que les personnes qui sont en situation de handicap veulent tout le temps être pris en pitié, puis veulent tout le temps être dramatisés. Je pense pas que c'est ça qui
Non.
les rendait plus à l'aise.
Maurice te répondrait pantoute. Ça, là, Yark, pas besoin. T'sais.
Ouais.
Mais c'est ça. Donc, ça nous parle aussi de ça. Qu'est-ce qu'on fait avec quelqu'un qui est en situation d'handicap? Est-ce qu'on l'aide? Est-ce qu'on l'aide pas? Est-ce qu'on l'aide trop? Est-ce qu'on complète ses phrases? Est-ce qu'on. T'sais. Puis c'est ça, c'est drôle. Tu dis que c'est drôle, ben ça aussi, ça me fait vraiment plaisir parce que souvent, on va séparer les choses alors que dans la vie, tout est mélangé.
Ouais.
On rigole même au salon funéraire. Tu sais. Puis pour moi, c'est important de mélanger du contenu qui est fort, qui est signifiant, puis aussi la légèreté de la vie, puis le plaisir de se rencontrer, de faire des blagues, puis de rebondir sur des trucs. Parce que pour moi, le rire, c'est une célébration de l'intelligence, mais aussi une célébration de nos âmes ensemble. T'sais. Quand on parlait d'électricité, t'sais, de se rassembler autour d'un feu, ben, pour moi, c'est ça. Parce que le rire, ça peut être cynique, ça peut être existentiel, ça peut être plein de choses. Puis, mon Dieu, une chance qu'on a ça pour survivre.
Vraiment. C'est clair. Je trouvais ça fou. Même Lucie, là, c'est vraiment. C'était comme. J'en reviens pas à quel point c'était un match parfait. Parce qu'en plus, elle riait pas souvent. Elle était quand même
Oui,
sobre.
très analytique, oui.
Ouais. Puis en plus, de par son travail de travail social, on dirait que c'était comme meant to be. Là, elle posait les bonnes questions. On dirait qu'elle savait tout ce que le public se demandait puis qu'elle les posait les questions. C'était incroyable.
Mais c'est ça, quand on tombe sur des gens qui ont d'autres métiers que celui des arts de la scène, c'est vrai, on se rend compte que le monde est beau, t'sais. Le monde qui vient nous voir, c'est des gens intéressants, intéressés. Qu'ils soient vendeurs d'assurance ou qu'ils travaillent dans un hôpital ou qu'ils soient professeurs, retraités, on rencontre plein de monde. Puis pour moi, c'est important que le théâtre soit pour tout le monde. Fait qu'il y a ça aussi là-dedans. Puis il y a des petites perles à chaque soir, c'est jamais les mêmes là, avec ces gens-là. Mais parce qu'on pose plein de questions, on parle de, t'sais, est-ce qu'on a peur de la mort? Maurice, qu'est-ce qu'il pense du Québec? Son accident, son coma, l'importance du travail dans nos vies, l'amour. On parle de plein de choses hein, à travers cette heure-là qui est assez condensée. Mais aussi, la personne est libre de se livrer ou pas sur ces sujets-là aussi. Donc, il y a des gens qui nous donnent des petites perles des fois.
Rebonsoir et bienvenue sur Café, votre émission d'art et culture du vendredi. Il est 6h54 et c'est le dernier segment de l'émission. Il y avait beaucoup de matériel cette semaine. Je vais revenir très rapidement sur le concert de l'album Georges qui a eu lieu lundi passé. C'était une levée de fonds pour l'organisme Brique par Brique et ça, comme on dit, ça a vraiment cartonné. La salle à la Salarossa, elle était pleine et félicitations à Brique par Brique et à la Salarossa puisqu'ils ont vraiment livré une super soirée, quoi. Les artistes John Allen Beck, Anna Weber, Aurora, Neilen et Chiquita Magic étaient fabuleux. Sarah Pagé également. Soulignons, ouais, Aurora, Neilen, elle est de la Louisiane et elle a une voix incroyable qui perce, qui a un registre très très fort. Ça me rappelait vraiment certaines artistes européennes comme. Comment elle s'appelle? Oh, j'ai de m'improviser un truc là. En ce cas, elle s'appelle Dutoit et elle a une voix incroyable. Elle fait de la voix très abstraite, mais aussi elle est capable de rentrer dans des mélodies. Et elle joue les saxophones, Aurora, Nélène. Donc, c'était incroyable et félicitations à Brique par Brique puisque c'est un projet. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est un organisme à but non lucratif qui est créé en 2016 et qui a comme mission d'aider les communautés racisées afin de construire des logements abordables dans le quartier multiculturel de Parc Extension, et puis à travers une perspective de justice sociale et transformative. Donc, c'est bravo pour eux. Donc, côté volet art visuel, bien, la semaine passée, je vous parlais de l'exposition signée par Dominique Fontaine. Ouais, c'était vraiment une exposition qui réunissait des artistes actuels et de la communauté haïtienne, et c'était vraiment très très bien à la Maison de la culture Jeannine Souto, et un volet à Hugues Charbonneau, la galeriste dans le Belgo, et c'était un regard vraiment très intéressant sur l'art contemporain en peinture et aussi en installation, mais surtout en peinture. Certains artistes faisaient référence à la culture vaudou également. Et Dominique Fontaine, elle a vraiment à cœur de développer des projets pour donner la voix à la diversité. Elle pousse les portes et c'est vraiment, vraiment admirable. Et cette maison de la culture, bien, Jeannine Souto, est très ouverte d'esprit. Et puis, elle dit elle-même, Dominique Fontaine, que pour elle, bien, avoir une représentation hétérogène, une pluralité des voix est vraiment important pour elle, quoi. Donc, c'est un super mandat, une mission qu'elle se donne. Et une expo à ne pas manquer, le vernissage aura lieu le 27 janvier prochain à 17h30. C'est une exposition signée par le commissaire et écrivain critique d'art, chercheur James Oscar, établi ici à Montréal et de descendante de Trinidad. Donc, il présente une exposition qui va être assez incontournable de deux artistes, peintres abstraits d'origine haïtienne, Clovis Alexandre Desvarieux et Carl-Philippe Simonis, donc à la Maison de la culture Claude Léveillé, située dans Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, sur la rue Jean Talon. Donc, je vais aller voir l'exposition et je pourrais vous donner un regard plus éclairé, mais c'est une exposition qui pose des questions à propos de la place du pouvoir politique dans nos vies et médite sur des thèmes tels que la transmission, les rites de passage, la pédagogie, l'habitacle et l'amitié. Donc, James Oscar nous propose quelque chose de vraiment challenging, comme on dit. C'est vraiment de bonnes réflexions à travers la peinture abstraite et deux artistes qui sont pas très connus ici à Montréal, mais qui demeurent à être connus vraiment cool. Clovis Alexandre Desvarieux et Carl-Philippe Simonis. Donc, l'émission s'achève et à ne pas rater cette expo le 27 janvier à 17h30. Donc, on va revenir à café, en parler davantage. Et c'est ça, le temps, c'est cool. Il est 6h59 et on va laisser la place à nos camarades qui s'en viennent très bientôt. Donc, à la semaine prochaine.
Be aware of our new email address, which is basabasa@ckut.ca. And just like that, we are hitting the second half.
Acaba de empezar tu programa favorito, 90.3 con Macondo. Los viernes a las 8 es el meneo con Macondo, el presidente de los feos. Y le creo, porque siempre lo escucho y no lo veo. Suban el volumen, la lista en grabadoras, ponen música selecta y lo ponen por dos horas.
Yo, yo, this is Gun.
Cada vez disto FM Macondo y Ecu de los Feos. DJ Irwin con ustedes. Feliz año Montreal, feliz año Quebec, feliz año Canadá y feliz año todo el mundo que nos escuchan vía ya sea la radio en el 90.3 FM, ya sea por internet vía www.ckut.ca. Eso es todo los que nos escuchan por internet, a todos nuestros amigos de todo el mundo. Ya saben que pueden escucharnos también con la aplicación TuneIn. Van a buscar ahí CQT, las radios de Montreal, y ahí sale CKUT. Y ahí está Macondo todos los viernes, de costumbre, entre 8 y 10. Pero nuestros amigos de Listening to Latin America toman un pequeño receso. Estarán de regreso con nosotros, creo que por el mes de febrero, junto con nuestro amigo Juan Carlos Quintana, que también no se fue de vacaciones, pero se fue a trabajar. Así que de parte de todo el equipo de Macondo y Cuyos Feos, feliz año. Tremendo programa el que nos dio Juan Carlos Quintana el último viernes del mes de diciembre, el último viernes del año 2022. Tu tenimisión, mon ami Juan Carlos Quintana, qui nous a animé ça le dernier vendredi de l'année 2022. Donc, on est très content d'être ici. On a eu notre fameux top 20. Le fameux top 20 des positions au style unique de Macondo y el Club de los Feos. Tout ça, c'est ici sur le 90.3 FM.